Livre troisième. La faute de l'abbé Mouret, chapitre 1. Après le pater, l'abbé Mouret s'étant incliné devant l'autel, alla du côté de l'épître. Puis il descendit, il vint faire un signe de croix sur le grand fortuné et sur la Rosalie agenouillée côte à côte au bord de l'estrade. Ego conjungo, vos in matrimonium in nomine patris et fili, et spiritus santis. Amen, répondit Vincent qui servait la messe en regardant la mine de son grand frère curieusement du coin de l'œil. Fortuné et Rosalie baissaient le menton un peu ému, bien qu'ils se fussent poussés du coude en s'agenouillant pour se faire rire. Cependant, Vincent était allé chercher le bassin et l'aspersoir. Fortuné mit l'anneau dans le bassin, une grosse bague d'argent toute unie. Quand le prêtre l'eut béni en l'aspergeant en forme de croix, il le rendit à Fortuné, qui le passa à l'annuaire de Rosalie, dont la main restait verdie de taches d'herbe que le savant n'avait pu enlever. « In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctis », murmura de nouveau l'abbé Mouret en leur donnant une dernière bénédiction. « Amen », répondit Vincent. Il était de grand matin. Le soleil n'entrait pas encore par les larges fenêtres de l'église. Au dehors, sur les branches du sorbier dont la verdure semblait avoir enfoncé les vitres, on entendait le réveil bruyant des moineaux. La teuse, qui n'avait pas eu le temps de faire le ménage du bon Dieu, époussetait les autels, se haussait sur la bonne jambe pour essuyer les pieds du Christ barbouillés d'ocre et de laque, rangeait les chaises le plus discrètement possible, s'inclinant, se signant, se frappant la poitrine, suivant la messe, tout en ne perdant pas un seul coup de plumeau. Seule, au pied de la chaire, à quelques pas des époux, la mère Brichet assistait au mariage. Elle priait d'une façon outrée. Elle restait à genoux avec un balbutiement si fort que la nef était comme pleine d'un vol de mouches. Et à l'autre bout, à côté du confessionnal, Catherine tenait sur ses bras un enfant au maillot. L'enfant s'étant mis à pleurer, elle avait dû tourner le dos à l'autel, le faisant sauter, l'amusant avec la corde de la cloche qui lui pendait juste sur le nez. « Dominus vobiscum », dit le prêtre, se tournant les mains élargies. « Ecum spiritutu », répondit Vincent. À ce moment, trois grandes filles entrèrent. Elles se poussaient pour voir, sans oser pourtant trop avancer. C'étaient trois amies de la Rosalie qui, en allant au champ, venaient de s'échapper, curieuses d'entendre ce que monsieur le curé dirait aux mariés. Elles avaient de gros ciseaux pendus à la ceinture. Elles finirent par se cacher derrière le baptistère, se pinçant, se tordant avec des déhanchements de grandes vauriennes, étouffant des rires dans leurs poings fermés. « Eh bien, » dit à mi-voix Larousse, une fille superbe, qui avait des cheveux et une peau de cuivre, « on ne se battra pas à la sortie. »« Tiens, le père Barbousse a raison, » murmura Lisa, toute petite, toute noire, avec des yeux de flamme. « Quand on a des vignes, on les soigne. » »« Puisque monsieur le curé a absolument voulu marier Rosalie, il peut bien la marier tout seul. » L'autre, Babet, bossu, les os trop gros, ricanait. « Il y a toujours la mère Brichet, dit-elle. Celle-là est dévote pour toute la famille, hein. Entendez-vous comme elle ronfle? Ça va lui gagner sa journée. Elle sait ce qu'elle fait, allez. » « Elle joue de l'orgue, » reprit Larousse. Et elles partirent de rire toutes les trois. La teuse de loin les menaça de son plumeau. À l'autel, l'abbé Mouret communiait. Quand il alla du côté de l'épître se faire verser par Vincent sur le pouce et sur l'index le vin et l'eau de l'ablution, Lisa dit plus simplement « C'est bientôt fini. Il leur parlera tout à l'heure. » « Comme ça, » fit remarquer Larousse, « le grand fortuné pourra encore aller à son champ et la Rosalie n'aura pas perdu sa journée de vendange. C'est commode de se marier le matin. Il a l'air bête, le grand fortuné. »« Pardi, » murmura Babet. Seul ennui, ce garçon de se tenir si longtemps sur les genoux. Bien sûr que ça ne lui était pas arrivé depuis sa première communion. Mais elles furent toutes d'un coup distraites par le marmot que Catherine amusait. Il voulait la corde de la cloche, il tendait les mains, bleu de colère, s'étranglant à crier. « Hé, le petit est là, » dit Larousse. L'enfant pleurait plus haut, se débattait comme un diable. Mets-le sur le ventre, fais le tété, souffla Babet à Catherine. Celle-ci, avec son effronterie de gueuse de 10 ans, leva la tête et se prit à rire. Ça ne m'amuse pas, dit-elle, en secouant l'enfant. Vas-tu te taire, petit cochon? Ma sœur me l'a lâché sur les genoux.
Je crois bien, reprit méchamment Babet. Elle ne pouvait pas le donner à garder monsieur le curé, peut-être.
Cette fois, la rousse faillit tomber à la renverse, tant elle éclata. Elle se laissa aller contre le mur, les poings aux côtes, riant à se crever. Lisa s'était jetée contre elle, se soulageant mieux, en lui prenant aux épaules et aux reins des pincées de chair. Babet avait un rire de bossu qui passait entre ses lèvres serrées avec un bris de scie. Sans le petit, continua-t-elle, monsieur le curé perdait son eau bénite. Le père Bambou s'était décidé à marier Rosalie au fils Laurent du quartier des Figuières.
Oui, dit la rousse, entre deux rires. Savez-vous ce qu'il faisait, le père Bambou?
Il jetait des mottes de terre dans le dos de Rosalie pour empêcher le petit de venir.
Il est joliment gros tout de même, murmura Lisa.
Les mottes lui ont profité.
Du coup, elles se mordaient toutes trois dans un accès d'hilarité folle. La teuse s'avança en boitant furieusement. Elle était allée prendre son balai derrière l'autel. Les trois grandes filles eurent peur, reculèrent, se tinrent sages.
Coquine, bégaya la teuse. Vous venez encore dire vos saletés ici. Tu n'as pas honte, toi, la rousse. Ta place serait là-bas, à genoux, devant l'autel, comme la Rosalie. Je vous jette dehors, entendez-vous, si vous bougez.
Les joues cuivrées de la rousse eurent une légère rougeur pendant que Babet lui regardait la taille avec un ricanement.
« Et toi ?» continua la teuse en se tournant vers Catherine. « Veux-tu laisser cet enfant tranquille? Tu le pinces pour le faire crier. Ne dis pas non. Donne-le-moi. »
Elle le prit, le berça un instant, le posa sur une chaise où il dormit, dans une paix de chérubin. L'église retomba au calme, triste, que coupaient seuls les cris des moineaux sur le sorbier. À l'autel, Vincent avait reporté le missel à droite. L'abbé Mouret venait de replier le corporal et de le glisser dans la bourse. Maintenant, il disait les dernières oraisons avec un recueillement sévère que n'avaient pu troubler ni les pleurs de l'enfant ni les rires des grandes filles. Il paraissait ne rien entendre, être tout au vœu qu'il adressait au ciel pour le bonheur du couple dont il bénit l'union. Ce matin-là, le ciel restait gris, d'une poussière de chaleur qui noyait le soleil. Par les carreaux cassés, il n'entrait qu'une buée rousse, annonçant un jour d'orage. Le long des murs, les gravures violemment enluminées du chemin de la croix étalaient la brutalité assombrie de leurs taches jaunes, bleues et rouges. Au fond de la nef, les boiseries séchées de la tribune craquaient, tandis que les herbes du perron, devenues géantes, laissaient passer sous la grande porte de longues pailles mûres peuplées de petites sauterelles brunes. L'horloge dans la caisse de bois eut un arrachement de mécanique poitrinaire comme pour s'éclaircir la voix et sonna sourdement le coup de 6h30. « Ite missa est, » dit le prêtre, se tournant vers l'église. « Deo gracias, » répondit Vincent. Puis, après avoir baisé l'autel, l'abbé Mouret se tourna de nouveau, murmurant, au-dessus de la nuque inclinée des époux, la prière finale. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, vobiscum, sit. Sa voix se perdait dans une douceur monotone.
Voilà, il va leur parler, souffla Babet à ses deux amis. Il est tout pâle, fit remarquer Lisa. Ce n'est pas comme Monsieur Caffin dont la grosse figure semblait toujours rire. Ma petite sœur Rose m'a conté qu'elle n'osait rien lui dire à confesse.
N'importe, murmura la rousse. Il n'est pas vilain homme. La maladie l'a un peu vieilli, mais ça lui va bien. Il a des yeux plus grands, avec deux plis au coin de la bouche qui lui donnent l'air d'un homme. Avant sa fièvre, il était trop fille.
Moi, je crois qu'il a un chagrin, reprit Babet. On dirait qu'il se mine. Son visage semble mort, mais ses yeux luisent allez. Vous ne le voyez pas lorsqu'il baisse lentement les paupières, comme pour éteindre ses yeux?
La teuse agita son balai.
Chut! siffla-t-elle si énergiquement qu'un coup de vent parut s'être engouffré dans l'église. L'abbé Mouret s'était recueilli. Il commença à voix presque basse. « Mon cher frère, ma chère sœur, vous êtes unis en Jésus. L'institution du mariage est la figure de l'union sacrée de Jésus et de son Église. C'est un lien que rien ne peut rompre, que Dieu veut éternel, pour que l'homme ne sépare pas ce que le ciel a joint. En vous faisant l'os de vos os, Dieu vous a enseigné que vous avez le devoir de marcher côte à côte comme un couple fidèle selon les voies préparées par sa toute-puissance. Et vous devez vous aimer dans l'amour même de Dieu. La moindre amertume entre vous serait une désobéissance au Créateur qui vous a tiré d'un seul corps. Restez donc à jamais unis à l'image de l'Église que Jésus a épousée en nous donnant à tous sa chair et son sang. » Le grand fortuné et Rosalie, le nez curieusement relevé, écoutaient. « Que dit-il ? » demanda Lisa, qui entendait mal. « Pardi, il dit ce qu'on dit toujours, » répondit Larousse. « Il a la langue bien pendue comme tous les curés. » Cependant, l'abbé Mouret continuait à réciter, les yeux vagues, regardant par-dessus la tête des époux un coin perdu de l'église. Et peu à peu, sa voix mollissait. Il mettait un attendrissement dans ses paroles qu'il avait autrefois apprises à l'aide d'un manuel destiné aux jeunes des servants. Il s'était légèrement tourné vers la Rosalie. Il disait, ajoutant des phrases émues lorsque la mémoire lui manquait, « Ma chère sœur, soyez soumise à votre mari comme l'Église est soumise à Jésus. Rappelez-vous que vous devez tout quitter pour le suivre en servante fidèle. » Vous abandonnerez votre père et votre mère, vous vous attacherez à votre époux, vous lui obéirez afin d'obéir à Dieu lui-même, et votre joug sera un joug d'amour et de paix. Soyez son repos, sa félicité, le parfum de ses bonnes œuvres, le salut de ses heures de défaillance. Qu'il vous trouve sans cesse à côté ainsi qu'une grâce, qu'il n'ait qu'à étendre la main pour rencontrer la vôtre. C'est ainsi que vous marcherez tous les deux sans jamais vous égarer et que vous rencontrerez le bonheur dans l'accomplissement des lois divines. Oh, ma chère sœur, ma chère fille, votre humilité est toute pleine de fruits suaves. Elle fera pousser chez vous les vertus domestiques, les joies du foyer, les prospérités des familles pieuses. Ayez pour votre mari les tendresses de Rachel. Ayez la sagesse de Rebecca, la longue fidélité de Sarah. Dites-vous qu'une vie pure mène à tous les biens. Demandez à Dieu chaque matin la force de vivre en femme qui respecte ses devoirs, car la punition serait terrible. Vous perdriez votre amour. Oh, vivre sans amour, arracher la chair de sa chair, n'être plus à celui qui est la moitié de vous-même, agoniser loin de ce qu'on a aimé. Vous tendriez les bras et ils se détourneraient de vous. Vous chercheriez vos joies et vous ne trouveriez que de la honte au fond de votre cœur. Entendez-moi, ma fille, c'est en vous, dans la soumission, la pureté, dans l'amour que Dieu a mis la force de votre union. » À ce moment, il y eut un rire à l'autre bout de l'église. L'enfant venait de se réveiller sur la chaise où l'avait couché la teuse. Mais il n'était plus méchant. Il riait tout seul, ayant enfoncé son maillot, laissant passer des petits pieds roses qui s'agitaient en l'air. Et c'était ses petits pieds qui le faisaient rire. Rosalie, que l'allocution du prêtre ennuyait, tourna vivement la tête, souriant à l'enfant. Mais quand elle le vit gigotant sur la chaise, elle eut peur. Elle jeta un regard terrible à Catherine. « Va, tu peux me regarder, » murmura celle-ci. « Je ne le reprends pas. » pour qu'il crie encore. » Et elle alla, sous la tribune, guetter un trou de fourmi dans l'un coin de mur cassé d'une dalle. « Monsieur Caffin n'en racontait pas tant, » dit Larousse. Lorsqu'il a marié la belle Miette, il lui a donné que deux tapes sur la joue en lui disant d'être sage. « Mon cher frère, » reprit l'abbé Mouret à demi-tourné vers le grand fortuné, « c'est Dieu qui vous accorde aujourd'hui une compagne.
car il n'a pas voulu que l'homme vécût solitaire. Mais il a décidé qu'elle serait votre servante. Il exige de vous que vous soyez un maître plein de douceur et d'affection. Vous l'aimerez parce qu'elle est votre chair elle-même, votre sang et vos os. Vous la protégerez parce que Dieu ne vous a donné vos bras forts que pour les étendre au-dessus de sa tête aux heures de danger. Rappelez-vous qu'elle vous est confiée. Elle est la soumission et la faiblesse dont vous ne sauriez abuser sans crime. Oh, mon cher frère, quelle fierté heureuse doit être la vôtre. Désormais, vous ne vivrez plus dans l'angoisse de la solitude. À toute heure, vous aurez un devoir adorable. Rien n'est meilleur que d'aimer, si ce n'est de protéger ce qu'on aime. Votre cœur s'y élargira, vos forces d'homme s'y centupleront. Oh, être un soutien, recevoir une tendresse en garde, voir un enfant s'anéantir en vous en disant « Prends-moi, fais de moi ce qu'il te plaira. J'ai confiance en ta loyauté. » Et que vous soyez damné si vous la délaissiez jamais. Ce serait le plus lâche abandon que Dieu eût à punir. Dès qu'elle s'est donnée, elle est vôtre pour toujours. Emportez-la plutôt entre vos bras. Ne la posez à terre que lorsqu'elle devra y être en sûreté. Quittez tout, mon cher frère. » L'abbé Mouret, la voix profondément altérée, ne fit plus entendre qu'un murmure indistinct. Il avait baissé complètement les paupières, la figure toute blanche, parlant avec une émotion si douloureuse que le grand fortuné lui-même pleurait sans comprendre. « Il n'est pas encore remis, » dit Lisa. « Il a tort de se fatiguer. Tiens, fortuné qui pleure. Oh, les hommes, c'est plus tendre que les femmes, » murmura Babet. « Il lui a bien parlé tout de même, » conclut Larousse. « Ces curés, ça va chercher un tas de choses auxquelles personne ne change. » « Chut !» cria la teuse qui s'apprêtait à éteindre les cierges. Mais l'abbé Mouret balbutiait, tâchait de trouver les phrases finales. « C'est pourquoi, mon cher frère et ma chère sœur, vous devez vivre dans la foi catholique qui seule peut assurer la paix de votre foyer. Vos familles vous ont certainement appris à aimer Dieu, à le prier matin et soir, à ne compter que sur les dons de sa miséricorde. » Il n'acheva pas. Il se tourna pour prendre le calice sur l'autel et rentra à la sacristie, la tête penchée, précédée de fin sang qui faillit laisser tomber les burettes et le manuterge, en cherchant à voir ce que Catherine faisait au fond de l'église. « Oh là, son cœur !» dit Rosalie qui planta là son mari pour venir prendre son enfant dans les bras. L'enfant riait. Elle le baisa, elle rattacha son maillot tout en menaçant du poing Catherine. « S'il était tombé, je t'aurais allongé une belle paire de soufflets !» Le grand fortuné arrivait en se dandinant. Les trois filles s'étaient avancées avec des pincements de lèvres. « Le voilà fier maintenant !» murmura Babet à l'oreille des deux autres. « Ce gueux-là, il a gagné les écus du père Barbousse, dans le foin, derrière le moulin. Je le voyais tous les soirs s'en aller avec Rosalie à quatre pattes le long du petit mur. » Elles ricanèrent. Le grand fortuné, debout devant elle, ricana plus haut. Il pinça Larousse, se laissa traiter de bêta par Lisa. C'était un garçon solide et qui se moquait du monde. Le curé l'avait ennuyé. « Hé, la mère » appela-t-il de sa grosse voix. Mais la vieille Brichet mendiait à la porte de la sacristie. Elle se tenait là, toute pleurarde, toute maigre, devant la teuse qui lui glissait des œufs dans les poches de son tablier. Fortuné n'eut pas la moindre honte. Il cligna les yeux en disant « Elle est futée, la mère, dame, puisque le curé veut du monde dans son église !» Cependant, Rosalie s'était calmée. Avant de s'en aller, elle demanda à Fortuné s'il avait prié monsieur le curé de venir le soir baigner leur chambre selon l'usage du pays. Alors Fortuné courut à la sacristie, traversant la nef à gros coups de talons comme il aurait traversé un champ. Il reparut en criant que le curé viendrait. La teuse, scandalisée du tapage de ces gens qui semblaient se croire sur une grande route, tapait légèrement dans les mains, les poussait vers la porte.
C'est fini, disait-elle. Retirez-vous, allez au travail.
Et elle les croyait tous dehors lorsqu'elle aperçut Catherine, que Vincent était venu rejoindre. Tous les deux se penchaient anxieusement au-dessus du trou de fourmis. Catherine, avec une longue paille, fouillait dans le trou si violemment qu'un feu de fourmis effaré coulait sur la dalle. Et Vincent disait qu'il fallait aller jusqu'au bout pour trouver la reine.
« Ah, les brigands !» cria la teuse. « Qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous bien laisser ces bêtes tranquilles? C'est le trou de fourmis à Mademoiselle Désirée. Elle serait contente si elle vous voyait. »
Les enfants se sauvèrent.